Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Tom Cruise est l'un des acteurs de la semaine. Il participe à la résurrection de la momie, personnage emblématique des films d'horreur au cinéma. Nous entendrons également avec Stéphane Boutsock, Louane et Marc Zinga l'affiche de Nos Patriotes, un film de guerre. Et pour tous les cinéphiles ou apprentis cinéphiles, rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des exemplaires du livre L'histoire du cinéma pour les nuls. Dans l'actu musicale, le premier album solo très réussi de Beth Ditto, l'ex-leader du groupe Gossip, Vanessa Paradis, Mathieu Chédid ou encore Benjamin Biolay qui reprennent les chansons de Souchon dans un album hommage piloté par ses fils. On découvrira tout cela avec Steven Bellery. Charlotte Arrigoni a préparé pour nous ses express du jour. Et puis la chanteuse Cœur de Pirate intègre le jury de l'émission Nouvelle Star, de retour à la rentrée sur M6. Elle nous expliquera ce choix en exclusivité au micro d'Isamel Moridibosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Nous vous emmenons au cinéma pour commencer. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Avant de détailler quelques-unes des 13 sorties de cette semaine, on fait le point sur notre box-office des 7 jours écoulés.
Sans forcer, d'après les chiffres de nos amis du site cbo.fr, c'est Wonder Woman qui réalise la meilleure performance de la semaine avec plus de 750 000 entrées. HHHH de Cédric Jiménez reste en dessous de la barre des 100 000. Là, c'est un petit peu difficile. Et pour les continuations, notez que Marie-Francine de Valérie Le Mercier a très largement dépassé le demi-million en 15 jours. Et que, oui, c'est très bien. Et que Pirates des Caraïbes 5 vogue au-delà des 2,6 millions.
À une semaine du début de l'été, Stéphane, c'est aussi la saison des grosses productions américaines qui commence. Après Wonder Woman, dont vous nous parliez, voici le retour de Tom Cruise dans la nouvelle version de La Momie.
Et c'est le principal intérêt de ce film qui n'en a pas tant que ça. Redonner vie à un des personnages les plus emblématiques des films d'horreur depuis le début du cinéma. Le studio Universal qui produit veut d'ailleurs remettre en scène des figures comme l'homme invisible, le loup-garou, Frankenstein, Dracula, le fantôme de l'opéra ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans une nouvelle collection de films. La Momie est donc le premier du genre. Tom Cruise y est un militaire d'élite qui, en tentant de débusquer le bunker de terroristes, va tomber sur quoi ? Sur les bandelettes d'une ancienne princesse d'Égypte, momifiée vivante, la pauvre, et qui est bien décidée à se venger de l'humanité. Alors, on est en terre inconnue, hein, Tom Cruise fait du Tom Cruise. On n'est pas passionné, on ne s'ennuie pas. Bref, si vous aimez le fantastique et l'action, vous passerez un bon moment. Ça tombe bien, comme Tom Cruise.
I want to see a monster movie now.
Moi, je voulais voir un film de monstres.
Watch a movie a day. And I am hungry as an audience to see.
Vous savez, je vais au cinéma au moins une fois par jour et en tant que spectateur, c'est ce genre de film dont j'ai envie. Je veux être diverti, effrayé et je veux que ça me foute la trouille à me faire lever de mon fauteuil. Et là, nous avons poussé tous les curseurs en termes de récit. Donc il y a des grandes scènes d'action, du suspense et de l'effroi, mais aussi des personnages avec ce sens de l'humour que j'adore, très noir. C'est ce que j'attends de ce style de film.
Tom Cruise, mais aussi Russell Crowe, qui joue le Dr. Jekyll, a retrouvé dans La Momie, en attendant donc les prochains films de monstres concoctés par Universal. Johnny Depp sera l'homme invisible, Javier Bardem et Angelina Jolie joueront le couple Frankenstein, et Dwayne Johnson sera lui le loup-garou. Si vous aimez les sensations fortes, je vous signale aussi la sortie d'un film japonais à l'ambiance étrange, oppressante. Ça s'appelle Creepy, donc bizarre. Un prof de criminologie rescapé d'un tueur en série et sa femme s'installent dans un nouveau quartier. Ils pensent que ça va bien se passer. Vous voyez, ils sont un petit peu de répit. Mais ils vont découvrir que leurs voisins sont plutôt étranges, intrigants et malins.
Bien, on passe au cinéma français, Stéphane, avec Nos Patriotes de Gabriel Lebaumin, film de guerre qui rend hommage au tout premier résistant français.
Ouais, d'ailleurs, le film est tiré d'une histoire vraie, celle de Hadi Ba, tirailleur sénégalais capturé par les Allemands en 1940, juste après la défaite de la France, qui va échapper à l'occupant allemand et rejoindre les maquisards dans la forêt des Vosges, formant l'embryon de ce qui sera ensuite la résistance. Nos Patriotes montrent la difficulté de la mobilisation des premiers mois contre l'ennemi, la difficulté de s'organiser sans rien ou presque dans les bois, et la difficulté pour un noir de s'imposer comme élément essentiel au sein d'un groupe qui avait vu peu de gens de couleur à l'époque et qui les considéraient surtout comme des indigènes. Très beau travail de Gabriel Lebaumin, réalisateur passionné par l'histoire sans des moyens démesurés, il faut le dire. Il donne vie et corps au récit, aidé par un casting très intéressant. Alexandra Lamy, Pierre de Ladonchamp, mais aussi Louane, je vais y revenir, et celui qui incarne Adiba, l'acteur belge Marc Zynga, qu'on a vu dans Bienvenue à Marly-Gaumont l'an passé, Dipane ou encore Spectre, le dernier James Bond. Pour lui, Nos Patriotes, c'est l'occasion de combler un vide de reconnaissance historique envers ces primo-résistants, mais aussi l'occasion de se divertir.
Oui, je pense que le film a pour fonction, parmi d'autres, de rendre justice à la fois à Diba et à ce réseau qui s'improvise. Et c'est une qualité pour moi du projet, c'est que ça reste un vrai film de divertissement, donc un film qui vise à ce que des gens viennent s'émerveiller, s'oublier pendant un temps donné dans cette salle sombre, et ça offre du recul. Le voyage, l'éloignement qu'on a par rapport à notre vie quotidienne permet un recul qui, je pense, nous donne à avoir un regard plus intelligent sur les choses aussi.
Et puis on le disait, l'autre intérêt de découvrir Nos Patriotes, c'est le retour de Louane au cinéma. 3 ans après l'immense succès de La Famille Bélier, c'est donc son deuxième film. Retour avec un second rôle, on est très loin du personnage de Paula dans le film d'Éric Lartigot, dans Nos Patriotes. Elle est Marie, postière bénévole de la Croix-Rouge, qui va elle aussi rejoindre le réseau des résistants. Louane avait-elle la volonté de ce retour différent sur grand écran ?
C'était pas une volonté de revenir dans forcément quelque chose de très très différent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pas retourné tout de suite. La première, évidemment, c'était par manque de temps, parce qu'à ce moment-là, j'ai sorti mon album. Donc j'ai eu ma tournée, ça a duré... La promo d'un disque, c'est beaucoup plus long que la promo d'un film. Donc il y a eu un manque de temps à la base. Et ensuite, je voulais pas faire du cinéma pour faire du cinéma. Faire quelque chose qui me plairait, quelque chose qui me toucherait. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un personnage qui était très très différent de ce que je suis. Donc moi, ça m'a tout de suite plu, que ce soit le rapport à l'humain ou l'histoire qui m'a touchée dès le début, quoi.
Louane Aimera, à l'affiche de Nos Patriotes de Gabriel Lebaumin au cinéma ce 14 juin. Je vous rappelle aussi, on en parlait hier, la sortie de Ce qui nous lie, le très goulayant nouveau film de Cédric Clapiche. 1 an de la vie de 3 frères et sœurs bourguignons devant gérer la survie du domaine viticole familial après la mort de leur papa. Beau, sensible, drôle et touchant. C'est vraiment une réussite. Enfin, tiens, à voir. Retour à Montauk, film germano-franco-irlandais de Volker Schlöndorff, qui raconte comment un écrivain parti faire la promo de son nouveau roman à New York va retrouver la femme avec qui, presque 20 ans avant, il a vécu une passion sans lendemain. Tous deux vont repartir à la découverte de leur histoire sur les berges du village de pêcheurs de Montauk, d'où le titre.
Et on continue de parler 7e art avec notre cadeau du jour, puisque nous vous offrons ce matin des exemplaires de l'histoire du cinéma pour les nuls, de Vincent Mirabel, édité chez First, du muet à la révolution numérique, une mine d'infos sur les chefs-d'œuvre incontournables, les réalisateurs, les acteurs. Et pour gagner, il faut tout simplement répondre à la question que vous pose Stéphane.
Justement, puisqu'on parle des grands mythes du cinéma, le film La Momie, je vous le disais, annonce le retour sur nos écrans de personnages emblématiques. Alors attention, c'est un peu plus dur que d'habitude. Qui était l'acteur emblématique des tout premiers Frankenstein? Était-ce Boris Karloff ou Bela Lugosi?
Je sais, Bah oui, Isabelle Morini-Bosco aussi, bien entendu. Eh bah très bien.
C'était pas mon époque, important.
Nous ne l'avons même pas envisagé.
J'ai vu l'œil de Steven.
L'œil de Steven, c'est normal. C'est le bambin dans cette émission. Donc on veut pas faire bambin. Alors, peut-être voulez-vous que nous parlions de nos audiences télévisées avec Médiamétrie et en la personne d'Isabelle Morini-Bosco.
Eh bien, écoutez, ils étaient logiquement 6 500 000 devant le match de foot France-Angleterre sur TF1. 29% du public sur la une. En deuxième position, en tandem, la comédie policière qui plaît pas aux intellectuels mais qui plaît aux public, 3 400 000 personnes et 14%.
Policière.
Et c'est pas si mal pour le village préféré des Français, qui est suivi par 2 400 000 personnes et 12% du public. Côté TNT, bah, je suis raccord avec Stéphane, puisque c'est TMC qui est en tête avec le retour de la momie. 930 000 téléspectateurs. Très nettement en tête.
Bon, bah écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça. La momie, c'est pas la momie. Maman.
C'est la méchante avec les bandelettes.
Exactement,
le sarcophage.
Oh, ça me plaît pas du tout ça. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Musique à présent avec Steven Mellery. Nous parlions c'est assez avec Mademoiselle Morini Bosque.
C'est assez. Ouais.
Voilà. Alors on va balayer l'actualité de la semaine, cher Steven. On commence par la sortie vendredi prochain de Fake Sugar, le premier album solo de Bess Ditto, Steven.
Oui, Bess Ditto, ex-chanteuse du groupe punk rock Gossip, formidable personnage, excentrique, rock'n'roll, enveloppée, ouvertement lesbienne et si talentueuse. Voici Fire, plage d'ouverture. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But what gonna find my mind, might not need to hold. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Bess Ditto, 36 ans, signant 12 titres pop, rock, soul, teintés de country, un disque d'une incroyable énergie, l'une des jolies surprises de cette fin de saison. L'américaine aurait pu se répéter, au contraire, elle s'envole, libérée de son groupe, elle s'éloigne du punk. Il y a plus d'audace dans ses nouvelles chansons addictives et beaucoup plus légères. Bess Ditto a pourtant puisé dans son enfance compliquée pour les textes. Elle a grandi dans une ville paumée de l'Arkansas, entre 7 frères et sœurs et presque autant de beaux-pères. Le chant est donc devenu très vite son exutoire.
Singing as a little girl made me feel good about myself.
Chanter quand j'étais une petite fille m'a permis de me sentir bien dans ma peau, car c'était ma seule manière d'attirer les regards d'une manière sympathique. Je n'ai pas été maltraitée, mais ma mère ne m'a accordé qu'une faible attention. Et quand je chantais, c'était physique, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a appris l'empathie. Parce que quand tu grandis sans argent, en étant grosse, homosexuelle, dans une société globalement raciste, j'avais la sensation de n'être nulle part à ma place. Et donc au début de ma carrière, je voulais faire du punk en rien. Et le truc bien avec la trentaine, c'est que t'acceptes les choses. C'est pas grave si j'ai pas la voix de Grace Jones. Je crois qu'avant, je n'appréciais pas vraiment ma voix.
Out, c'est un clin d'œil aux girls band des années 50.
Alors, Bess Ditto a également puisé dans son enfance des idées de sonorité, Steven.
Oui, à l'âge de 18 ans, elle fuit l'Arkansas pour l'état de Washington. C'est à l'exact opposé, hein. C'est l'état de Seattle qui donne sur le côté pacifique. Elle y rejoint son pote d'enfance et crée Gossip. Après 15 ans d'exubérance scénique et musicale, elle finissait souvent en petite culotte et soutien-gorge. Hein. Ah, Bess Ditto revient à des rythmes sudistes, notamment le honky-tonk.
Le honky-tonk, c'est un truc typiquement du sud des États-Unis. C'est un peu de la country. On danse en ligne, habillé sur son 31. C'était vraiment populaire dans les années 80. J'ai grandi dans un comté où l'alcool était interdit. Et le week-end, j'allais avec mon père dans un endroit qui s'appelait le VFW. Ils avaient de l'alcool, je ne sais toujours pas comment. Mon cousin et mon frère y jouaient avec leur groupe du piano Boogie Woogie, comme Jerry Lee Lewis, Little Richard et des chansons country. J'y dansais tous les week-ends. And you said what fair, sad. Fake Sugar, le premier album de Bess Ditto sort vendredi. Elle chantera le 30 juin à Garo Rock, le 8 juillet aux Eurocaines de Belfort, le 3 octobre à Toulouse, le 4 à Lyon ou le 7 octobre au Bataclan. Formidable artiste sur scène et donc sur disque également.
J'irai à Lyon.
avec des univers incroyablement variés, on vient de l'entendre grâce à vous. Alors, bon, vous irez à Lyon, c'est parfait. Dans les bacs, vendredi également, Souchon dans l'herbe, c'est un album hommage au répertoire d'Alain Souchon, Steven.
Un énième disque de reprise, mais un joli disque de reprise concocté par Renaud Létang, artisan de C'est déjà ça, et par ses deux fils, Pierre et Charles Souchon, alias Ours. L'album revisite 40 ans de souchonnerie. Vanessa Paradis nous envoie un baiser.
Je chante un baiser, chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Chante un baiser marchant dans la brume.
Autre extrait, autre réussite. M regarde sous les jupes des filles.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes. Absorbé par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Alors même si le disque manque un petit peu de peps à mon goût, les arrangements mettent une nouvelle lumière sur les textes d'un des paroliers majeurs de la chanson française. Le casting est prestigieux, ça tombe pas dans le pastiche. Jeanne Chéral, Juliette Armanet, Jean-Louis Aubert ou encore Isia. Allez, un dernier extrait, Benjamin Biolay revisite La vie ne vaut rien.
Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens dissectent. Et il a dit,
Souchon dans l'air, c'est le nom de cette nouvelle compilation album de reprise qui sort vendredi prochain. Un deuxième volume est prévu à la rentrée.
Merci beaucoup Steven Bellery pour cette petite balade musicale. Dans quelques instants, Charlotte Arrigoni avec au menu de ses express. Vous allez voir, c'est pas mal. Hein. Claude Lelouch, Marion Cotillard, Pharrell Williams. Bref, tous ses amis.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Les express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Vous voyez, quand on veut, c'est magnifique. Ouais. C'est une information RTL, Claude Lelouch prépare un nouveau film.
Trois mois seulement après la sortie de Chacun sa vie et l'accueil mitigé du long métrage, le réalisateur se remet déjà au travail.
Ben oui.
En exclusivité pour RTL, il révèle ce matin le sujet et le titre de ce nouveau film.
Oui et non, qui sont les deux mots les plus utilisés par l'humanité. À chaque fois qu'on dit oui ou non, ça change notre vie et notre destin. Comme je vais bientôt avoir 80 ans, tu vois, à la fin de l'année, je voudrais faire un film sur ces 80 années que j'ai eu la chance de vivre et dont j'ai été le témoin, voilà, à travers l'histoire de deux grandes familles qui vont traverser toutes ces gouttes d'eau que j'ai eu la chance de traverser. Voilà, donc j'espère que ça sera une comédie, mais une comédie qu'il va falloir prendre très au sérieux. Donc c'est un film qui va commencer en 1937 jusqu'à aujourd'hui, à travers la musique, le cinéma, la politique. Voilà, j'ai assisté à un spectacle fabuleux et on a vécu un siècle de folie totale et j'espère que je vais pouvoir m'offrir ça pour mes 80 ans. Je voudrais pas être le dernier à en parler.
Il est incroyable.
Claude Lelouch, joint pour RTL par vous, Stéphane Boutsock. Au chapitre ciné, j'ajoute l'ouverture aujourd'hui du Festival du film romantique de Cabourg. C'est Marion Cotillard qui préside cette année le jury.
Que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
Eh bien, du côté des romans, trois reines des librairies trônent aux trois premières places. Dans l'ordre, Fred Vargas avec Quand sort la recluse, Virginie Despentes pour Vernon Subitex 3 et Anna Gavalda pour Fendre l'armure. Au rayon des essais et documents, La vie secrète des arbres de Peter Wolben est toujours numéro 1 devant Une très légère oscillation, Le journal de Sylvain Tesson et Un été avec Machiavel de l'historien Patrick Boucheron.
Un palmarès complet à retrouver, Charlotte, dans les colonnes de L'Express. Alors La minute vieille, elle revient sur Arte avec de nouveaux invités.
La sixième saison sera diffusée dès le 3 juillet prochain. C'est une série humoristique de Fabrice Marouka. On y retrouvera nos impassibles retraités qui ne manquent pas de mordant. Et parmi les invités, il y aura notamment Geneviève de Fontenay, Andrea Ferréol et Liliane Rovert. Extrait.
C'est un fermier qui est en ville dans une rue commerçante et soudain il voit une machine bizarre sur le trottoir.
Un truc énorme et c'est écrit analyse d'urine, 3 euros. Le mec hallucine, il n'a jamais vu ça.
Et nous non plus, on n'a jamais vu un truc pareil.
Il met 3 euros et un gobelet tombe, comme dans une machine à café.
Il comprend qu'il doit pisser dedans. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre?
Il n'y a pas beaucoup de monde autour, alors discrètement, il remplit le gobelet.
La suite à découvrir du 3 juillet au 3 septembre prochain, c'est sur Arte.
Après la chanson Happy, Pharrell Williams retrouve les mignons pour un nouveau tube.
Oui, le premier extrait de la BO de Moi, Moche et Méchant 3 a été dévoilé. Le nouveau titre de Pharrell Williams est accompagné d'un clip dans lequel sont conviés d'ailleurs les mignons.
Ah oui.
La chanson s'appelle Yellow Light, extrait. Pharrell Williams, BO de Moi, Moche et Méchant 3, en salle le 5 juillet prochain.
Merci beaucoup Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors nous arrivons maintenant à notre page télévisée. Et ce soir, on va commencer par une exclusivité. Isabelle Morini-Bosque, le nouveau jury de La Nouvelle Star.
Oui, émission de 2003 qui reviendra sur M6, sa chaîne d'origine, à la rentrée. On connaissait déjà deux membres du nouveau jury, Benjamin Biolay et Dany Sainté. Sapé comme jamais de Maître Gim, c'est lui. Oula. Et quid des deux autres? Eh bien, le nom de la Québécoise, Cœur du Pirate, avait circulé. Oui. Elle a effectivement signé. La quatrième mousquetaire s'appelle Nathalie Noënec. Elle a travaillé avec Sinclair, Manoukian, Benjamin Biolay, a géré l'image d'Erita Mitsuko, de Souchon, Renaud, Dao. Et je vous offre ce matin une double exclue parce que nos deux jurées femmes, celle de 27 ans, celle de 52 ans, ne s'étaient jamais vues avant de se retrouver à mon micro. Bah alors ?
Oui, oui. En fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, c'est assez émouvant. Moi, je suis assez émue.
Moi aussi. Ouais. C'est un choc visuel d'abord, sonore. Je sens une très belle rencontre.
Oui, je suis très contente d'être ici et puis de présenter cette nouvelle aventure.
Alors, pour moi, c'est une nouvelle aventure à plein de niveaux. Je suis depuis toujours, on va dire, dans l'ombre des artistes. Et là, je vais me révéler au grand public aussi. Et je suis ravie de faire partie de ce jury et surtout de m'appuyer sur ma nouvelle collaboratrice et collègue et les autres talents que sont Dany et Benjamin.
Alors la nouvelle star, qu'est-ce que ça représente pour elle? Qu'est-ce qu'elle va apporter?
En fait, moi, je suis de la génération de La Nouvelle Star d'une certaine façon, parce que quand je suis arrivée en France, l'émission elle battait son plein. Je connaissais pas grand-chose de la musique en France actuelle, donc ça m'a permis de me faire un peu une idée de ce qui se présentait. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais je crois que j'ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui, et aussi à travers la maternité, pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Tout le monde a quelque chose d'autre à offrir en tant que producteur, réalisateur, arrangeur. Moi, je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez. On verra pour dire un peu ce que je pense.
Alors moi, je me sens légitime à cause des 30 ans, ou grâce plutôt aux 30 ans que j'ai passé dans ce milieu. Benjamin, je me suis occupée au début de sa carrière, de son image, donc on se connaît depuis longtemps. Il faut avoir une curiosité sans préjugés, je pense, donc je me sens pas encore à l'aise, mais archi légitime.
Conclusion avec Cœur du Pirate, qui l'avoue, elle se sent plutôt candidate.
Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas nécessairement de voix. Oui, je sais, c'est tellement dur à croire aujourd'hui,
bah oui.
Ma voix si puissante. Non, mais quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de voix et je suis devenue la personne que je suis parce que justement, il y a des gens qui ont cru en moi. Je pense qu'une nouvelle star, c'est exactement ça. Oui, la voix, c'est quelque chose d'énorme, forcément, mais il y a un grain, il y a le look. C'est ça qu'on va essayer de regarder aussi un petit peu. Enfin, je crois.
La suite à la rentrée, la nouvelle star, c'est un vrai pari, mais j'en suis ravie. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, vraiment.
Je crois qu'on est tous contents de retrouver l'émission. Alors, quoi d'autre ce soir à la télé?
Ah là là, très anxiogène, Grey's Academy sur TF1. Si vous aimez pas l'avion, ben c'est pas ça qui va arranger les choses. Et sur France 5,
oui.
Un prodigieux document sur les géants des mers, cachalots, baleines, orques. C'est hallucinant de voir l'intelligence de ces mammifères qui, il y a 50 millions d'années, ont des pattes et choisissent l'eau pour survivre. Pour le coup, vraiment, ils se cachent à l'eau. Ce sont de vraies sociétés basées sur la transmission, l'amour, l'éducation, l'entraide. Prenez les orques, par exemple,
oui.
Qui, contrairement à ce que vous dites, ne sont pas méchants. Ils sont écrasés par leur poids. S'ils s'échouent, on le sait. Or, on suit une famille d'orques qui fait semblant de s'échouer au péril de sa vie pour happer les petits éléphants de mer dont les parents se contrefichent. Parce que alors, la vie sociale des éléphants de mer, c'est basé sur le viol et l'abandon, c'est inexistant. Mieux, on voit des orques, écoutez bien, s'entraîner à faire basculer une mini-banquise pour récupérer le phoque qui est dessus. Ils s'unissent pour faire une espèce de petite tsunami, ils soulèvent la plaque, ils font glisser le phoque, qu'ils aident ensuite à remonter sur la glace parce que ce jour-là, ils sont juste là pour l'entraînement. Vous verrez, c'est prodigieux. Et puis les orques, on le sait aujourd'hui, aime beaucoup notre compagnie. On voit un orque lancer des algues à un océanographe espagnol,
oui.
Et puis demander à ce que l'océanographe joue avec lui comme
renvoie.
On lance un bâton à un chien.
Voilà.
C'est formidable. Moi, vraiment, j'espère que ce doc, si j'ose dire, va faire des bagues.
Et c'est ce soir sur France 5.
C'est ce soir sur France 5, c'est formidable.
Et bientôt des orques dans La Rivière Enchantée, bien entendu.
Les méchants, c'est les orques de Barbarie.
Ça c'est drôle.
Qu'est-ce que c'est drôle? Allez, on se retrouve dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dites-moi, les tout premiers Frankenstein, ils étaient interprétés par qui?
Par Boris Karloff, parce que Bela Lugosi, c'était Dracula.
Et ben voilà. Oui. Donc vous avez gagné l'histoire du cinéma pour les nuls de Vincent Mirabel, édité chez First, cadeau de Monsieur Boutsock. Et on retrouve tout de suite notre camarade Julien Courbet.
Et elle a raison, hein, Isabelle, sur tout ce qu'elle a dit. Je l'ai vu, le documentaire. À un moment donné, on voit même un orque conduire une kangou et distribuer le courrier. Ils sont terriblement intelligents.
C'est pour ça que moi, je veux les installer à la rivière enchantée, au jardin d'acclimatation.
Il paraît même qu'il se pourrait qu'à la prochaine présidentielle, un orque se présente. Il aurait tellement d'intelligence, il serait même plus intelligent que certains qui se sont présentés, paraît-il.
Le parti des orques.
Exactement.
Mais nous avions le parti animaliste, hein, qui a fait 1%. Oui. Vous savez que les petits chatons...
Oui, mais n'essayez pas de m'endormir parce que vous avez 2 minutes de retard. Avec Calvi. Parce que là, je connais vos méthodes, vous m'emmenez sur autre chose pour que j'oublie, mais j'ai la pendule en face de moi. Attention, attention quand même.
Bon, allez, bonne émission. Allez.